matinale. Bonjour Michel Vinocq.
Bonjour.
Ceux qui vous ont eu comme élève au lycée Hoche de Versailles, au lycée Lacanale à Paris, à l'université de Vincennes ou à Sciences Po à Paris, n'ont pas le souvenir, en tout cas c'est pas le mien, c'est pas mon souvenir, d'un homme qui se racontait ou qui se raconte. Pourquoi maintenant une autobiographie qui se lit comme un livre d'histoire et qui est un assemblage de plusieurs livres où vous parlez de vous ?
Oui, effectivement, la discipline nous propose, nous impose de faire œuvre impersonnelle. L'historien doit être distancé et ne pas s'impliquer dans l'histoire qu'il raconte. Oui, mais c'est un peu un faux semblant. J'ai eu un maître qui s'appelait Henri Maroux, qui était un historien de l'Antiquité, mais qui était aussi un philosophe. Et il a écrit un ouvrage de la connaissance historique dans lequel il dit notamment que l'histoire est inséparable de l'historien. C'est-à-dire que tous les historiens peuvent avoir, sur un sujet donné, les mêmes sources et pourtant ne pas les utiliser de la même façon. Alors on peut se mettre d'accord sur les faits, mais ensuite, ça ne suffit pas de dénoncer des faits. Il faut évidemment les interpréter. Et c'est là où l'on voit qu'il y a quand même des diversités d'approches selon ce que l'on est soi-même, de quoi on dépend, d'un milieu, d'une famille, d'une classe sociale, d'une religion, d'une philosophie, enfin, etc.
Et vous avez voulu raconter dans Ego Histoire d'où vous parliez, en fait.
Voilà. Vous avez raison. D'où je parlais.
Moi, j'aimerais savoir pourquoi vous avez choisi l'histoire. Vous auriez pu être employé d'une compagnie de commerce, vous auriez pu travailler dans l'agriculture, me semble-t-il. Vous aviez des origines, vos parents avaient des activités dans l'agriculture, les maraîchers, enfin bon...
Oui, alors en gros, comme dans beaucoup de familles françaises de ma génération, les parents viennent de la campagne. Mon père, maraîcher à Saint-Omer, qui n'a pas pu continuer dans cette voie parce que famille nombreuse, il n'y avait pas la place pour lui, il n'était pas l'aîné. Et donc, il a passé sa première vie professionnelle à faire des petits boulots. Enfin, il a trouvé une place sur les tramways. Puis, les tramways ont disparu à Paris en 1935. Donc, il est devenu receveur d'autobus. Et ma mère était fille d'un salarié agricole dans la grande plaine de France. Et elle est devenue finalement caissière à la RATP. Donc, famille assez typique de ce point de vue-là, venue de la campagne, s'installant dans la grande ville, à Paris, où là, évidemment, tout va changer pour eux et pour leurs enfants. Nous étions 6 enfants et j'ai eu la chance d'être le dernier, venant 10 ans après le numéro 5.
Avec un grand frère, pardonnez-moi de vous interrompre, qui vous a poussé à faire des études.
Oui, j'ai eu 2 frères qui ont compté pour moi définitivement. Le premier, l'aîné, Marcel, qui est mort à 22 ans. En 1944, mort de tuberculose. Et un an après, mon père, notre père, mourait de la même maladie. Donc en un an, ma mère avait perdu son fils aîné puis son mari. Et le fils aîné, il a laissé derrière lui plusieurs centaines de poèmes et surtout un journal. Un journal intime, qui allait de 1939 à 1944. Et ce journal, quand je l'ai lu, non pas à sa mort, je n'avais que 7 ans, mais plus tard, c'est un journal qui m'a bouleversé, qui m'a passionné. Et comme je ne pouvais pas le publier tel qu'il était, parce qu'il était un peu chaotique, j'en suis arrivé à l'utiliser, à le prendre comme point de départ pour faire l'histoire de ma famille, et c'est Jeanne et les siens. Et donc, la figure de ce jeune poète, qui était mon aîné, est restée m'a toujours habité.
Et elle vous a orienté vers un métier intellectuel et ensuite l'histoire. On va pas refaire ce parcours qui vous emmène de l'agrégation à un doctorat tardif. On a un président qui a le goût de l'histoire. On lui reproche même trop de commémorations, trop de discours sur le passé. Il célèbre les grands disparus, les héros, les entrées au Panthéon. On dit qu'il le fait plus que d'autres, mais c'est une tradition présidentielle française. Nos présidents font-ils trop d'histoire? Sont-ils trop tournés vers le passé?
Je ne dirais pas cela. Je pense qu'il y a certainement un abus des commémorations. C'est vrai parce que les politiques s'en emparent pour faire des discours, pour rattacher leur propre action à celle de leur passé, etc. Donc là, il y en a un peu trop. En revanche, je suis convaincu que l'histoire est une connaissance indispensable pour faire de la politique et certainement pour diriger un pays.
Est-ce que vous estimez, Michel Vinocq, invité de la matinale qui publiait Ego Histoire chez Bouquin, que le citoyen, lui aussi, a le devoir de bien connaître l'histoire? Vous savez, il y a des papiers sans arrêt sur le niveau en orthographe, sur le niveau en mathématiques des jeunes Français. On se lamente moins de leur niveau en histoire. Est-ce que ce niveau baisse? Est-ce que l'histoire est un peu le parent pauvre de nos préoccupations de parents d'élèves ou de citoyens?
Pour vous répondre, on peut évoquer plusieurs aspects. Par exemple, la vente des livres d'histoire. Il fut un temps que j'ai connu, qui a été pour nous historiens un âge d'or. C'était les années 80, début des années 90.
Vous étiez vous-même directeur de collection.
Exactement, aux éditions du Seuil. Et nous vendions des livres à 50 000, 100 000 exemplaires aujourd'hui. Quand vous regardez dans les hebdos, là, la liste des best-sellers, des meilleures ventes, vous en trouvez très très peu qui soient de caractère historique, très très peu. Alors ça arrive, par exemple, récemment, il y a eu l'ouvrage d'Olivier Vivorca, Histoire générale de la Seconde Guerre mondiale. Mais c'est exceptionnel. Alors que, il y a 30 ans, nous avions l'impression que les historiens prenaient un peu, dans le champ intellectuel, la place de ce qu'avait été celle des philosophes, au temps de Sartre, etc. Et on nous invitait, sans arrêt, les historiens, à parler de tout et de l'actualité et d'autres choses. On avait acquis une sorte de statut, comme ça, d'intellectuel, et qui aujourd'hui, je crois, complètement, ou presque complètement, disparu.
Dans votre ego histoire, et quand vous vous racontez, vous parlez de l'université de Vincennes qui a été un laboratoire créé par Edgar Faure, où vous avez enseigné, et vous en parlez avec une certaine tendresse, et en même temps vous décrivez assez bien les luttes intestines des gauchistes à l'époque.
Oui.
Alors vous me voyez arriver, aujourd'hui on parle beaucoup de l'université depuis quelques semaines, qui est le lieu de luttes intestines entre gauchistes et étudiants pro-israéliens, pro-palestiniens, enfin il y a des conflits, il y a des procès en censure. Est-ce que vous avez le sentiment que l'ambiance universitaire a changé au plan politique?
Je n'y suis plus, puisque j'ai pris ma retraite, donc je suis un peu éloigné de cela, mais d'après les informations que je peux lire ou voir à la télé ou ailleurs, je dirais oui, sans doute, l'apaisement est terminé. Moi, j'ai vécu à Vincennes, donc une université qui était une université conflictuelle et même violemment conflictuelle, avec une lutte acharnée entre les communistes et les gauchistes, de sorte que pour les quelques-uns comme moi qui n'étaient ni l'un ni l'autre, on se trouvait comme une sorte de voilà entre l'enclume et le marteau, et c'était parfois pénible.
Vous avez le sentiment que Sciences Po Paris a changé?
Alors justement,
vous allez enseigner là-bas.
Alors voilà, alors je sors de Vincennes, donc de cette agitation qui était de tous les moments, où l'on faisait quand même parfois du bon travail, hein, mais ça c'est pas de sujet, et puis j'arrive à Sciences Po, je suis élu à Sciences Po en 79, et alors là, je trouve une sorte d'apaisement, de lieu absolument magnifique où l'on pouvait débattre, ne pas être d'accord, mais dans la sérénité, dans le calme, sans affrontement ni physique ni verbaux excessifs. Et je crois que cela s'achève en ce moment. Alors, encore une fois, je ne suis pas un témoin direct aujourd'hui, mais ce qu'on a vu, par exemple, à propos des meetings qui ont eu lieu ici et là, notamment à Sciences Po, je ne l'ai pas connu, de mon temps, je ne l'ai pas connu. Alors, j'ai connu 68, j'ai vu 68. Là, il y a eu, évidemment, une sorte de révolution interne de Sciences Po, mais il n'y a pas de violence, c'était pas violent. C'était plutôt la fête.
Michel Vinocq, vous avez écrit un livre sur la France et les Juifs depuis la Révolution. Avez-vous le sentiment que l'antisémitisme a changé de camp ?
Oui, bien sûr. Bien sûr. Nous avions traditionnellement, et depuis surtout le 19e siècle, un antisémitisme qu'on peut qualifier d'extrême droite. C'est-à-dire d'origine nationaliste avant tout, qui a commencé dans les années 1880, qui a été lancé et diffusé par un auteur qui s'appelait Édouard Drumont.
Donc vous avez signé une biographie, me semble-t-il.
Oui, pas une biographie, mais enfin j'ai écrit beaucoup là-dessus.
Drumont et compagnie.
Voilà, et ce Drumont a lancé un journal qui s'appelait La Libre Parole, un quotidien qui a eu une influence considérable. Et cet antisémitisme a débordé dans les rangs d'extrême gauche, avec un dénommé Rochefort, qui était un journaliste, éditorialiste, ancien communard, et qui a versé dans le nationalisme, dans l'anti-dreyfusisme, dans l'antisémitisme. Et donc vous aviez un cas de figure qui ressemble un peu à ce qui se passe aujourd'hui, avec, à mon avis, une différence des forces, puisque à l'extrême droite, il existe toujours l'antisémitisme, mais à mon avis, moins fort que dans les années de Drumont, et inversement, on voit qu'à l'extrême gauche, se dessine, s'ébauche, se développe ce qu'on appelle l'antisionisme, mais qui parfois et même souvent se confond avec l'antisémitisme.
C'est l'ancien élève de Michel Vinocq qui va vous poser la question. Il avait été passionné par votre livre La fièvre hexagonale. La fièvre hexagonale racontait les grands moments de tension française, de révolution réussie ou avortée, les moments où la France se crispait. Est-ce que nous vivons depuis quelques années un nouveau chapitre de cette fièvre hexagonale qui reste à écrire ?
Alors, j'avais pris pour ce livre la série des crises, des grandes crises politiques. Qu'est-ce que j'appelais grandes crises politiques ? Celles qui mettaient en cause, sans y parvenir toujours, mais qui arrivaient parfois, qui mettaient en cause nos institutions, la Constitution. Et en ce moment, je ne sens pas encore cette remise en cause de la Constitution. Bien sûr, elle existe dans certains rangs. On sait que Jean-Luc Mélenchon a fait toujours campagne sur la 6e République, donc ça veut bien dire qu'il faut abattre cette République, mais je dirais que nous sommes dans un état de un peu de crise permanente, mais que les institutions tiennent encore.
Michel Vinocq, merci d'être venu parler au micro de Radio Classique. Égo-histoire, votre histoire, est parue chez Bouquin, et c'est formidable, comme souvent vos livres, Michel Vinocq. On peut aussi vous lire dans Challenge, le magazine économique. Chaque semaine, vous signez une chronique sur le site internet de Challenge. À suivre, le rappel des titres, la revue de presse d'Hervé Gattegno, et puis notre esprit libre du jeudi, Franz-Olivier Gisbert, séduit par la stratégie des contrôleurs aériens. Michel Vinocq, je ne l'ai pas dit, vous aviez un chat dans la gorge, il disparaît. À bientôt, c'est tout ce que je vous souhaite. Radio Classique, 8h20.